papier. Poète, vos papiers.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rêve Poème pour Radioactive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur connu, c'est Maupassant, connu pour ses romans, ses nouvelles, mais peu connu pour sa poésie. Maupassant est né en 1850, il est décédé en 1893. Il a tenté de se suicider au cours de sa vie avec un certain nombre d'hallucinations. Il a fait une grosse dépression et est tombé dans la folie pour se retrouver dans la maison de santé du docteur Blanche. Maupassant a d'abord publié de nombreux articles dans les journaux du moment, à savoir Le Figaro, Gil Blas, Le Gaulois et L'Écho de Paris. Il a été encouragé par Gustave Flaubert, qui était un vieil ami de la famille. Il publie en 1879 son premier livre, Histoire du vieux temps. Entre 1880 et 1890, là, il publie abondamment. Il publie 6 romans, plus de 300 nouvelles et des récits de voyage. Il a publié notamment Bel Ami, Pierre et Jean. Maupassant avait une aversion naturelle pour la société. C'était un révolté. Ainsi que sa santé fragile, il va vers une certaine retraite, une certaine solitude, une méditation. Il voyage longuement en Algérie, en Italie, en Angleterre, en Bretagne, en Sicile, en Auvergne. En 1887, son frère Hervé est interné une première fois et retombe malade en fin d'année. Il est interné de nouveau en 1889 et meurt dans l'asile de Lyon-Bron. Durant ces dernières années, Maupassant développe un amour exagéré pour la solitude. Il devient paranoïaque. Sa mère également était dépressive, donc une espèce d'hérédité dans la famille. Et Maupassant mourra de la syphilis. Il était très attiré par les femmes et toutes les femmes. Il a fait une tentative de suicide également. Il a été à son tour interné le 6 janvier dans la clinique du docteur Émile Blanche. Et là, il va mourir de paralysie générale. Quelques années auparavant, Guy de Maupassant avait écrit « Je suis entré dans la littérature comme un météore. J'en sortirai comme un coup de foudre. » Sa poésie est malheureusement mal connue. Et pourtant, il a écrit de merveilleuses choses, et notamment sur les femmes, sur la nature également. Je vais vous lire un poème qui s'intitule « Nuit blanche ». La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. Pas un bruit, pas un son. Toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Plus de chansons dans l'air. Sous nos pieds, plus de chaume. L'hiver s'est abattu sur toute floraison. Des arbres dépouillés dressent à l'horizon leurs squelettes blanchis, ainsi que des fantômes. La lune est large et pâle et semble se hâter. On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. De son morne regard, elle parcourt la terre et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. Et froid tombe sur nous les rayons qu'elle darde, fantastique lueur qu'elle s'en va semant, et la neige s'éclaire au loin sinistrement, aux étranges reflets de la clarté blafarde. Oh, la terrible nuit pour les petits oiseaux! Un vent glacé frissonne et court par les allées. Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. Dans les grands arbres nus que couvre le verglas, ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège. De leur œil inquiet, ils regardent la neige, attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. Guy de Maupassant. Maupassant excelle lorsqu'il s'agit de dépeindre l'ambiance de la nature. Ce poème que je viens de vous lire est à la fois lugubre, il est glaçant, ça se passe en hiver. La neige, le froid font ici écho à un monde sans pitié, fait de souffrance et de mort. Le dernier vers dresse le terrible constat d'une désespérance, qu'aucune lueur d'espoir ne viendra jamais éclairer. Et, une fois de plus, la référence récurrente chez Maupassant à la vacuité de l'existence. un autre poème de Maupassant qui s'intitule « Le sommeil du mandarin ». Sur sa table de nacre, aux reflets argentés, la lune souriait autour de porcelaine, et trois dames causant au milieu de la plaine jetaient comme cet astre une étrange clarté. Et tandis que le vent soufflait au loin sa plainte, mollement étendue sur des tapis soyeux, sous les rayons fleuris de sa lanterne peinte, le mandarin Von Tang avait fermé les yeux. Pendant qu'il regardait tranquillement la flamme qu'il versait du plafond ses filets de couleurs, un songe était venu voltiger sur son âme, comme un oiseau de pourpre au-dessus d'une fleur. Sur sa table de nacre, aux reflets argentés, la lune souriait autour de porcelaine, et trois dames causant au milieu de la plaine jetaient comme cet astre une étrange clarté. Et tandis que le vent soufflait au loin sa plainte, mollement étendue sur des tapis soyeux, sous les rayons fleuris de sa lanterne peinte, le mandarin Von Tang avait fermé les yeux. Pendant qu'il regardait tranquillement la flamme qui versait du plafond ses filets de couleurs, un songe était venu voltiger sur son âme comme un oiseau de pourpre au-dessus d'une fleur. Le sommeil du mandarin, écrit en 1872, est un poème provenant du mouvement littéraire Le Parnasse. En effet, le poème s'oppose au romantisme qui vécut à cette époque et prône l'art pour l'art. La nature est traitée comme une peinture. Il y a une recherche des harmonies, de couleurs et des effets de chatoiement. Pour Maupassant, le poète doit écrire pour produire l'effet qu'il poursuit, c'est-à-dire l'émotion de la simple réalité. C'est un poème lyrique qui traite de la beauté, du rêve et de l'infinité de sans fin. Dans un tout autre genre, je vais vous lire un poème qui s'intitule « Sommation sans respect ». Je connais fort peu votre mari, madame. Il était gros et laid. Je n'en savais pas plus. Mais on n'est pas fâché quand on aime une femme que le mari soit borgne ou bancal ou perclus. Je sentais que cet être inoffensif et bête se trouvait trop petit pour être dangereux, qu'il pouvait demeurer debout entre nous deux, que nous nous aimerions au-dessus de sa tête. Et puis, que m'importait d'ailleurs, mais aujourd'hui, il vous vient à l'esprit je ne sais quel caprice. Vous parlez de serments, de devoirs et sacrifices, de remords éternels, et tout cela pour lui? Y songez-vous, madame, et vous croyez-vous née, vous, jeune, belle, avec le cœur gonflé d'espoir, pour vivre chaque jour et dormir chaque soir auprès de ce magot qui vous a profané? Quoi? Pourriez-vous avoir un instant de remords? Est-ce qu'on peut tromper cet avorton bonasse, eunuque, je suppose, et d'esprit et de corps, qui m'étonnerait bien s'il laissait de sa race? Regardez-le, madame, il a les yeux percés comme deux petits trous dans un muid de résine. Ses membres sont trop courts et semblent mal poussés, et son ventre étonnant, où sombre sa poitrine, en toute occasion, doit le gêner beaucoup. Quand il dîne, il suspend sa serviette à son cou pour ne point maculer son plastron de chemise qu'il a d'ailleurs poivré de tabac. Car il prise. Une fois au salon, il s'assied à l'écart tout seul dans un coin noir ou bien s'en va sans morgue à la cuisine auprès du fourneau bien chaud car il sait qu'en digérant, il ronfle comme un orgue. Il fait des jeux de mots avec sérénité. Vous appelle ma chatte et ma cocotte aimée. Et veut pour toute gloire et toute renommée être, en leur différant, des voisins consultés. On dit partout de lui que c'est un bien brave homme. Il a de l'ordre, il est soigneux, sage, économe, surveille la servante et lui prend le mollet, mais ne va pas plus haut. Elle le trouve laid. Il cache la bougie et tient compte du sucre, volontiers se mettait à ravauder ses bas, et bien qu'il est très fort au cœur l'amour du lucre, il vous aime peut-être aussi. Dans tous les cas, il ne vous comprend point plus qu'un âne, un poème. Il vit à vos côtés et non pas avec vous. Et si je lui disais soudain que je vous aime, peut-être serait-il plus flatté que jaloux. Soufflé, gonflé devant ce gendarme en baudruche, grotesque épouvantail que sur l'amour on juche, comme on met dans un arbre un mannequin de bois dont les oiseaux n'ont peur que la première fois. Je vous aurai bientôt entre mes bras saisis. Nous allons l'un vers l'autre irrésistiblement. Qu'il reste entre nous deux, ce bonhomme vessie. Nous le ferons crever dans un embrassement. Ce poème coquin de Maupassant est construit comme une petite nouvelle. C'est ce qu'on aime chez cet auteur, l'art du récit, de la forme assez courte, l'érotisme, le fantastique, la cruauté, l'ironie et le désespoir. Maupassant, dans ce poème, est très cruel. Apparemment, il aime une femme qui n'est pas la sienne, mais il dépeint son concurrent légal comme quelqu'un de gros, de laid, de borgne, de bancal, de perclus, d'inoffensif, de bête. Enfin, tous les qualificatifs qui font qu'on ne peut ne pas l'aimer. Il est auprès de ce magot, dit-il, cet avorton bonasse, eunuque même. Il dit aussi, il ronfle comme un orgue. C'est un bien brave orme. Il a de l'ordre, il est soigneux, sage, économe. Il est même péjoratif dans ses vers. Il le blâme, il le ridiculise, il l'amoindrit. Il dit même, il vit à vos côtés, mais non pas avec vous. Et si je lui disais soudain que je vous aime, peut-être serait-il plus flatté que jaloux. Franchement, il le prend pour un imbécile. Et ça, c'est tout Maupassant. Maupassant a eu dans sa vie, on peut dire, une galerie de femmes. Il a aimé toutes les femmes. Les femmes célèbres, il avait une sexualité débordante. Il aimait les prostituées, les paysannes, les bourgeoises, les mondaines. Là, apparemment, dans ce poème, c'est plutôt une petite bourgeoise mondaine. Et c'est surtout dans la construction de son œuvre, qu'est-ce qu'il décrit ? Il décrit, c'est davantage le sort réservé aux femmes qui l'intéressent. En fin de compte, Maupassant était à la fois très aimant des femmes, mais également très misogyne. Il était partagé en permanence et ne savait pas sur quel pied danser. Ça, c'est l'aspect un petit peu mortifère de Guy de Maupassant. Et c'est qu'avec Maupassant, rien n'est simple. Et que derrière ce jugement à l'emporte-pièce dans ce poème, excessif, pour être crédible, se cache un homme fragile qui craignit les femmes autant qu'il les aima, c'est-à-dire qu'il les aima passionnément. Alors, un dernier poème que je vais vous lire qui s'intitule « Mais dans le cloître solitaire ». C'est un poème sur les hommes, là, cette fois-ci. Il est très amusant également. Écoutez. « Mais dans le cloître solitaire, où nous sommes ensevelis, nous ne connaissons sur la terre que soutane et que surplis. Un poète est donc insensible ? Pour lui, l'amour n'a point d'appât ? Non, voyez-vous, c'est impossible. Oh, ne vous imaginez pas que dans le cloître solitaire, où nous sommes ensevelis, nous n'aspirons plus sur la terre qu'aux soutanes et aux surplis. » Ce poème, paru le 30 juin 1858, évoque bien évidemment ces prêtres qui sont dans ces maisons un peu closes pour eux-mêmes. Et ben, il dit en fin de compte que ce sont des hommes comme les autres, que bon, ben, oui, il y a la soutane, mais vous voyez, rien n'est impossible. Sous la soutane, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver en pleine forme le mois prochain. Pour clore cette émission, j'aimerais vous faire écouter un texte de Louis Aragon, chanté par Jean Ferrat. Il s'agit de « La femme et l'avenir de l'homme ».
Le poète a toujours raison. voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.